Bonsoir à tous et merci d'être là. Je représente ce soir le Forum IRTS de Lorraine, donc qui est partenaire de cette conférence inaugurale du Festival Livre d'ailleurs, comme l'année dernière, puisqu'on soutient largement cette grande initiative et un long partenariat avec Livre d'ailleurs et Diwan en Lorraine. Donc je vous remercie à tous d'être là et je laisse la parole donc au président Ridouane Atif.
Merci beaucoup Estelle, merci à vous d'être présents, merci à monsieur Benjamin Stora de venir nous éclairer sur un pan de l'histoire qui est important. Nous l'avons fait l'année dernière, fait appel aux historiens pour nous éclairer sur le problème israélo-palestinien. Nous faisons appel aujourd'hui aux historiens pour nous éclairer sur cette période de la guerre en Algérie entre la France et l'Algérie qui a besoin de réconciliation. Mais avant toute chose, on a besoin de poser les bons mots sur les bonnes choses, car mal nommer les choses... Eh bien, vous connaissez très bien donc un autre compatriote de Benjamin Stora, Albert Camus. Voilà, juste pour vous dire que ces conférences inaugurales donnent le point de départ du Livre d'ailleurs, qui aura lieu pendant 3 jours, donc à partir de demain 14h jusqu'au dimanche, avec 2 éclairages particuliers cette année. Un où nous essayons de développer la partie littérature jeunesse et donc les contes avec un public famille. Bienvenue à nos amis de Lecturic. Donc un public famille, et puis aussi on a le grand plaisir de tisser un partenariat avec le Bilili BD Festival de Brazzaville, avec notre ami et conseillère Joël Epé-Mandingue, et donc vous aurez de très beaux BDistes. Merci beaucoup aussi à notre présidente Ananda Devi, où il y aura 2 cartes blanches. Vous pourrez la voir dans un échange autour de la prison avec monsieur Mohamed Serifi Villard, et vous pourrez la voir dans une carte blanche sur les mythologies avec 2 complices à elle, Gaël, Octavia et Bessora. Je vous souhaite une belle conférence, un bon spectacle. À bientôt.
Bonsoir. Pour les personnes qui arriveraient et qui chercheraient des places, juste vous signaler qu'il y en a encore un petit peu devant. Benjamin Stora, bienvenue à Nancy. Nous vous remercions encore d'avoir accepté d'intervenir ce soir en ouverture du 5e festival Livre d'ailleurs, consacré cette année aux littératures du continent africain. Donc c'est une grande joie de vous accueillir. Ce festival d'ouverture qu'est Livre d'ailleurs met en lumière les littératures, les imaginaires, mais aussi les idées d'Afrique et du Moyen-Orient et entend faire vivre la bibliodiversité, ce que je ne peux que saluer bien bas en tant que bibliothécaire. Et cette conférence inaugurale va permettre d'explorer, à travers votre regard et votre pratique d'historien, près de 2 siècles d'histoire en commun entre la France et l'Algérie. En parcourant ce soir l'un de vos derniers ouvrages, je vous le montre, il s'agit de France-Algérie, anatomie d'une déchirure, co-signé avec Thomas Negaroff et publié aux Arènes en 2025, une coédition avec France Inter. Donc Benjamin Stora, en quelques mots, vous êtes un historien connu et reconnu de l'histoire des relations franco-algériennes. Vous avez travaillé depuis presque 50 ans, aussi bien à établir l'histoire factuelle de ce conflit qu'à faire s'exprimer et apparaître les mémoires qui en ont découlé. Historien, personnalité médiatique aussi, vous êtes professeur des universités. Vous êtes un chercheur, un auteur prolifique avec 40 d'ouvrages à votre actif, s'intéressant à de nombreux sujets, écrivant sa propre mémoire comme celle des autres. Vous vous attachez à faire entendre la pluralité des voix qui racontent cette histoire récente et plus ancienne et êtes engagé dans un travail de transmission autour de cette histoire et de ses mémoires. Emmanuel Macron vous a confié la mission de rédiger un rapport rendu en 2021, dit rapport Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, assorti de 22 recommandations dont un certain nombre furent suivies d'effets. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Vos plus récentes publications illustrent les différents fils que vous tirez année après année. Vous pourrez retrouver certains de ces ouvrages dans les médiathèques et bibliothèques de la ville et du réseau Colibris, mais aussi une sélection proposée à la vente par la librairie Didier à l'issue de cette rencontre où aura lieu une signature du coup au fond de cette salle. Donc ce soir, Nous nous intéressons plus particulièrement à France-Algérie, Anatomie d'une déchirure, qui est l'adaptation d'une série de podcasts enregistrés sur France Inter avec le journaliste et historien Thomas Negaroff, qui introduit chacun des 6 épisodes que vous pouvez retrouver en écoute libre sur le site de France Culture de la manière suivante. Donc, je ne suis pas Thomas Negaroff, mais je vais faire l'introduction de Thomas Negaroff. Près de 2 siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, l'histoire d'une plaie impossible à cicatriser ? Cette série, fruit d'une conversation serrée, a ensuite été adaptée en livre par les éditions Les Arènes. Cet ouvrage d'entretien paru en 2025 s'inscrit dans une série d'adaptations d'autres grands conflits ou crises contemporaines, comme par exemple Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, ou encore 5e République, anatomie d'un régime en crise. C'est le terme de déchirure qui est employé dans le titre de cet ouvrage. On évoque souvent aussi les multiples fractures entre les deux pays, comme dans l'introduction d'un autre de vos ouvrages d'entretien paru récemment, Doit-on s'excuser de la colonisation ? Pourquoi parler de fracture ? Si le tabou de la colonisation se lève progressivement, il semble qu'aujourd'hui encore, elle ne se manifeste dans le débat public qu'avec passion. Dans la majeure partie du paysage audiovisuel français, le sujet est pris en otage par l'absence de recul et de nuances. Il est ainsi difficile de faire entendre la voix des historiens soucieux d'engager une réflexion sur le temps long. C'est ce que permet l'ouvrage sur lequel vous appuierez votre propos ce soir. 45 questions pour tout comprendre, annonce le projet de ce livre Vert et Rouge, qui prolonge et enrichit dans une forme d'hypertexte vos conversations radiophoniques, si fluides et si claires qu'elles permettent d'embrasser 2 siècles d'une histoire tourmentée et de remettre cette histoire en perspective des tensions encore vives présentes aujourd'hui entre les deux pays. Une conversation donc pour apprendre et comprendre. Juste quelques mots sur l'ouvrage pour vous le situer, avant de vous laisser la parole, enfin. Donc, ce qui est extrêmement intéressant dans cet ouvrage original, dont on va parler ce soir, à la lecture plaisante et rythmée par les questions, est le soin apporté à la mise en contexte du propos principal. Il est structuré sur le modèle de l'émission de radio, donc il se découpe en 6 chapitres et 6 grandes dates pour mettre en lumière les attachements, comme les fractures et conflits entre la France et l'Algérie. Un fil chronologique relie chaque chapitre, permettant de comprendre les grands jalons de cette histoire. Le texte est éclairé par des portraits biographiques, l'explication de notions ou d'acronymes, de termes propres à cette histoire coloniale dans les marges. Ce qui est remarquable aussi est tout le travail de cartographie et d'infographie réalisé pour cet ouvrage très contemporain où l'image tient un rôle important aux côtés du texte. Et peut-être ce qui m'a le plus plu dans cette lecture, c'est la place laissée à la pluralité des voix qui résonnent depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours à travers des extraits de discours, de textes juridiques importants, de correspondance aussi ou de mémoire. Ce livre grand public réussit ainsi à faire entendre des voix. En cela, il est une intelligente adaptation, cette émission, votre voix, Benjamin Stora, mais aussi celles qui ont ponctué cette histoire et qui éclairent notre présent. Alors, je vais laisser votre voix s'exprimer. Donc, nous allons commencer à entrer dans ce livre. Et pour entrer dans ce livre, je vais commencer par vous en lire l'épilogue. Voilà, car ce n'est pas tout à fait un épilogue, puisqu'il s'agit d'un livre qui s'arrête en 2025, mais l'histoire continue, bien sûr. Et je voulais vous lire cet extrait qui résume un petit peu la gageure et la complexité qui se trouve dans ce livre, en fait, qui est d'une grande simplicité de lecture. La mémoire est un poison lent dans la relation entre la France et l'Algérie. Elle s'insinue dans les silences des familles et les bruits des politiques. De 1830 à aujourd'hui, elle n'a cessé d'évoluer, de se heurter, de se tendre, sans jamais totalement se réparer. Car cette relation, née dans la violence coloniale, s'est enracinée dans une mémoire fracturée, trop souvent instrumentalisée, toujours vive. Les mémoires ne se superposent pas, elles se heurtent, écrit l'historien Benjamin Stora. Donc, Monsieur Stora, pour commencer, avant d'entrer dans ce livre et d'en retracer les grandes lignes, quelques grands jalons, parce que bien sûr on ne va pas pouvoir ce soir retracer l'ensemble de cette histoire, juste pour vous resituer vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre lien avec l'Algérie ? Comment vous en êtes arrivé à faire de l'histoire, à travailler l'histoire, cette matière-là ?
Bien, d'abord, bonsoir d'être venus si nombreux à Nancy ce soir. Il y a quand même beaucoup de monde, c'est assez impressionnant. Donc je voudrais vous remercier tous d'être ici avec nous ce soir pour ce dialogue. Comment je suis venu à l'Algérie? Non pas parce que j'y suis né en 1950. Donc faites le calcul, hein, si je suis né en 1950, vous pouvez faire le calcul de l'âge que j'ai, hein, c'est pas très compliqué. Donc ça veut dire que je ne suis pas arrivé à l'Algérie par le lieu de naissance. Je suis arrivé à l'Algérie au moment de la mort d'un personnage historique algérien qui s'appelait Messali Hadj, qui est mort en 1974. Et à l'époque, c'était il y a longtemps, j'étais un jeune militant politique révolutionnaire dont l'organisation était très proche de Messali pendant la guerre d'Algérie, l'organisation qui était la mienne. Et donc, les vieux militants de mon organisation, moi j'étais très jeune, j'avais 23 ans à l'époque, 23, 24 ans, et donc les vieux militants de cette époque-là, algériens, qui étaient encore tous vivants, m'avaient appris la mort de ce dirigeant, Messali, mais ils m'avaient expliqué que c'était une mort qui s'était faite dans une sorte d'anonymat, pratiquement. Je précise d'ailleurs que tout près d'ici, à Neuf-Maisons, il y a la tombe de l'épouse de Messali Hadj, Émilie Buscan, une Française, qui est à Neuf-Maisons. Donc en 1974, lorsque j'ai voulu faire des études d'histoire, mon professeur m'a dit: Stora, vous qui vous intéressez tout le temps à la Révolution, il y en a une dont vous parlez jamais, c'est l'Algérie. J'ai dit, oui, c'est vrai ça, l'Algérie. Et il y avait ce trésor archivistique, ces mémoires aussi, de tous ces vieux militants qui étaient soit partisans de Messali, qui avaient été au MNA, mais aussi du FLN, parce que c'était tous les gens du FLN, des anciens messalistes. C'est une histoire très compliquée. Vous allez voir qu'on va complexifier les choses de plus en plus. Donc, entre FLN et MNA, il y avait beaucoup d'anciens militants, tout près de la fin de la guerre d'Algérie, en 62, donc c'était 10-12 ans après, c'est rien, hein, et dont la parole n'était pas entendue, bien entendu. Et puis, il y avait aussi le fait que, dans le champ de la recherche universitaire de cette époque, il n'y avait pas de chercheurs sur l'Algérie contemporaine. Et donc, mon professeur, qui était Charles-Robert Agerot, il n'avait qu'un seul étudiant, c'était moi. Un seul étudiant qui avait décidé de travailler sur l'histoire de l'Algérie. Et à partir en 1974. Et donc, à partir de là, j'ai rencontré la famille de Messali. Je raconte ma vie, hein, c'est bien. C'est mieux, j'incarne le propos historique.
Hein. Vous êtes l'historien.
C'est mieux que de... Oui. Donc, la fille de Messali, Janina, qui m'a donné un trésor, en fait, c'était les mémoires de son père qui venait de mourir, Messali. Messali avait été le fondateur du mouvement national algérien indépendantiste avec l'étoile nord-africaine en 1926. D'ailleurs, cette année, ça fera 100 ans que l'étoile nord-africaine a été créée à Paris, 1926-2026. C'est le 100e anniversaire. Et donc, Janina m'a donné les mémoires que son père avait rédigées juste avant de mourir. Et donc, j'ai été le premier historien français à travailler sur les mémoires de Messali. Et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer un certain nombre de grands acteurs du nationalisme algérien et de la révolution algérienne au sens large, de fil en aiguille. Vous savez, les gens, ça se passe comme ça, petit à petit. On dit, tiens, il y a un jeune qui s'intéresse à l'histoire, comme il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à rencontrer Mohamed Harbi, qui était un historien, mais un ancien responsable de la Fédération de France du FLN. Et puis de là, j'ai rencontré aussi Naït Ahmed, qui était le grand dirigeant du Front des Forces Socialistes, qui était dans l'opposition, dont inutile de vous dire qu'à cette époque, dans les années 70, je n'ai rencontré que des opposants. C'était en France, et donc, bien sûr, la famille de Messali, la famille d'Naït Ahmed, Boudiaf, bien sûr, qui étaient tous les grands dirigeants qui avaient créé, fondé, organisé cette bataille politique, mais qui avaient tous été écartés du pouvoir. Après 62, c'est une vieille leçon. Ceux qui démarrent une révolution ne sont pas forcément ceux qui arrivent à l'arrivée, quoi. On peut examiner toute l'histoire de beaucoup de révolutions où malheureusement ceux qui démarrent l'affaire ne sont pas les mêmes que ceux qui arrivent au pouvoir par la suite. On peut prendre la révolution russe, la révolution chinoise, etc. C'est le cas de l'Algérie, malheureusement. Et donc, tous les, j'allais presque dire, les acteurs de cette histoire, mais aussi les enfants des acteurs de cette histoire qui commençaient à vieillir, sont rentrés en contact avec moi, donc m'ont communiqué des archives, des tracts, etc. Et donc j'ai soutenu mon baptême sur Messali en 1978. Mais c'était une époque où personne s'intéressait à l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, c'était loin dans les années 70, dans la conscience française. De Gaulle avait utilisé cette formulation en 62 à propos de l'Algérie. Il est temps de refermer la boîte à chagrin. Bon, il a cru qu'il allait refermer la boîte à chagrin. Vous verrez bien sûr que la boîte à chagrin ne s'est jamais refermée. Bon. Donc en 1974, 75, 76, non seulement le champ universitaire était quasiment vierge, mais j'allais presque dire le champ intellectuel, culturel et politique était vierge aussi. L'Algérie paraissait une question dépassée, une question réglée par le passage à l'indépendance, dans la douleur, dans les problèmes, mais quand même lointain. Bref, 52 ans plus tard, jamais on n'a autant entendu parler de l'Algérie et il n'y a jamais autant de monde dans les réunions sur l'Algérie, alors qu'à l'époque, quand j'ai soumis mon manuscrit sur Messali aux grandes maisons d'édition, Le Seuil, Gallimard, etc., évidemment, personne n'a pris... Je n'ai pas été édité chez Gallimard du premier coup, hein, mais à l'Armatan. Ma petite revanche, c'est que 30 ans plus tard, Hachette a publié le Messali. Alors ça, je suis content, 30 ans après. Mais au point de départ, c'était l'Armatan, c'est-à-dire une édition quasiment à compte d'auteur. Je raconte tout ça parce que plus on s'éloigne de l'histoire algérienne et plus on s'en rapproche. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que plus on est loin de tout ce qu'on considère comme quelque chose de passé, de révolu, de réglé, etc., et plus on s'aperçoit que rien n'est véritablement réglé. Au contraire, que les choses ont été dissimulées, occultées, refoulées. Et ça, progressivement, je m'en suis aperçu en travaillant, parce que plus je publiais des choses sur cette histoire, et plus j'ai commencé à élargir mon champ de travail aux autres groupes porteurs de cette mémoire, bien sûr. Les immigrés algériens en France, d'abord, parce que, bien sûr, Messali était un immigré lui-même. Donc, l'immigration algérienne en France. Puis ensuite, par extension, il y avait d'autres groupes porteurs de mémoire, les Européens d'Algérie, c'est-à-dire les Pieds Noirs, les Juifs d'Algérie, bien sûr. Alors là, j'arrive directement à l'histoire de ma propre famille. Et puis, par extension, les soldats, les appelés du contingent. Et puis, enfin, les harkis. Et pourquoi j'ai étendu progressivement? C'est parce que tout au long des années 80, les groupes de mémoire se sont réveillés. Il y avait un réveil de tous ces groupes de mémoire. Les enfants de l'immigration algérienne se réveillaient, entre guillemets, à travers la question du 17 octobre 61, le massacre de leur père à Paris le 17 octobre 61. Les enfants de harkis se révoltaient. Je parle des années 80. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vouloir sortir du ghetto dans lequel on les avait enfermés après l'indépendance de l'Algérie, comme des sortes de témoins gênants de cette histoire terrible. Et puis aussi, il y avait bien entendu les enfants des Européens d'Algérie qui, quand je dis les enfants, c'était des gens qui, dans les années 80-90, étaient déjà âgés de 30 à 40 ans. C'était des grands enfants quand même. Hein. C'était des gens qui avaient entre 25, grosso modo, et 35 ans à l'époque et qui voulaient savoir ce qui s'était passé. Puis enfin, il y avait les Algériens tout court, les Algériens d'Algérie qui commençaient à arriver en France pour étudier, qui lisaient les livres, en particulier ceux de Mohamed Harbi, mais les miens aussi, puisque j'ai publié en 1985 un dictionnaire biographique de 600 militants du nationalisme algérien que j'ai fait tout seul, 600 bio. Et donc ce dictionnaire biographique a circulé en Algérie. Donc quand les gens passaient, naturellement, à l'époque il n'y avait pas besoin de visa, jusqu'en 86, donc quand les gens venaient en France, eh bien ils venaient s'informer et ils lisaient, et à ce moment-là ils se rendaient compte que l'histoire qu'ils lisaient en France, notamment par des anciens acteurs algériens eux-mêmes, ce n'était pas l'histoire telle qu'elle était enseignée en Algérie.
Tout à fait.
C'était le cas, par exemple, des mémoires de grands acteurs algériens, comme par exemple Sinaït Ahmed, qui a sorti ses mémoires en 1983, Mémoires d'un combattant. Et donc, un Algérien venant d'Algérie en France lisait et pouvait accéder aux mémoires d'un des principaux dirigeants de cette histoire qui avait été écarté de la scène politique. Et donc, il voyait bien qu'il y avait une contradiction entre l'histoire enseignée, transmise par l'école, et l'histoire telle que les acteurs la racontaient eux-mêmes. Alors, il y avait les mémoires de Messali, les mémoires d'Aït Ahmed, les mémoires de Lebjaoui, les mémoires de Krim Belkacem, etc., qui étaient reproduites dans Courrière. Ça, c'était une astuce. Hein, qu'un jour, il faudra que j'explique comment le livre d'Yves Courrière, ce sont en fait les mémoires de Krim Belkacem. Fermons la parenthèse. Ça, c'est pour les initiés. Donc, par conséquent, il y avait toute une volonté de recherche des origines qui se manifestait en Algérie, mais aussi en France. Et donc, toutes ces mémoires qui avaient été refoulées, qui avaient été mises de côté, etc., ont littéralement refait surface et ont explosé véritablement dans les années 90-2000, quoi. C'est dans ces années-là que la mémoire a refait surface. C'est ce qui a été pour moi l'occasion d'écrire un autre livre qui s'appelait « La gangrène et l'oubli » que j'ai publié en 1991 sur comment la mémoire avait été occultée par les Français et reconstruite par les Algériens et comment on avait brisé l'occultation et la reconstruction pour parvenir ou tenter de parvenir à un récit plus ou moins équilibré. Et là, on arrive aux années 2000. Mais il faut que je vous laisse la parole parce que sinon, après ça ne va pas. Sinon, je vais parler trois heures. Ça ne va pas du tout. Allez-y, allez.
Non, mais on y reviendra sans doute hein, sur ces ambiguïtés entre les mémoires et aussi les amnésies qui ont un peu jalonné finalement cette histoire. Mais je vous propose du coup effectivement de reprendre un petit peu de distance pour mieux se rapprocher de l'histoire contemporaine et de revenir au début de cette histoire entre ces deux pays, puisqu'elle n'a évidemment pas commencé à la guerre d'Algérie. Cette histoire, elle a commencé beaucoup plus longtemps avant, à partir de 1830. Du coup, je vais vous laisser un peu nous faire ressortir toute cette époque de la conquête de l'Algérie, où il sera question sans doute d'orientalisme, d'intérêt économique aussi, d'enfumade, de débat français sur cette entreprise de colonisation et de résistance, bien sûr, aussi. Mais d'abord, cette histoire, elle commence par un coup d'éventail. Racontez-nous.
Pour répondre à votre question et pour poursuivre ce que je disais, c'est que quand la mémoire a explosé, elle s'est focalisée dans un premier temps sur la guerre d'Algérie, qu'on appelle en Algérie la guerre d'indépendance, guerre de libération, enfin bref, qu'importe le terme. Mais c'est sur la fin de l'histoire que la mémoire a explosé. C'est là, dans les années 90-2000, qu'on a assisté, par exemple, aux grandes enquêtes du journal Le Monde sur Osares, la question de la torture. On a commencé à savoir aussi quel avait été le drame vécu par les harkis, etc. C'est-à-dire l'exode des pieds noirs, etc. C'est-à-dire la fin de cette histoire. C'était la fin de cette histoire. Et il a fallu attendre 2020-25, c'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'on s'intéresse à l'origine de cette histoire, c'est-à-dire la conquête. Lorsque, vous le savez, un journaliste français a dit, dans une polémique, il y en a comme ça à la télévision des explosions, quand on lui a dit, mais la France a conquis pacifiquement l'Algérie, il a dit, mais pas du tout, il y a eu des massacres absolument terribles et épouvantables dans la conquête de l'Algérie, et à ce moment-là, la France, pourrait-on dire, découvrait l'ampleur de ce qu'avait été la conquête de l'Algérie. Cette terrible conquête, cette première guerre d'Algérie. Donc il a fallu attendre pratiquement 60 ans après l'indépendance de l'Algérie pour qu'on remonte dans le temps et qu'on en arrive non pas à la fin de cette histoire, mais qu'on reconstruise le film par le début de l'histoire, c'est-à-dire la conquête elle-même.
Tout à fait.
C'est-à-dire combien de temps elle avait duré, qu'est-ce qui s'était passé dans cette conquête. Et donc, à partir de là, moi, j'avais déjà travaillé pas mal sur la conquête, puisque j'avais sorti un livre en 1991 qui s'appelait « Histoire de l'Algérie coloniale ». Mais dans le grand public, évidemment, ça a explosé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une soif, un besoin de savoir. Par parenthèse, mais ça, c'est classique en histoire, avant que cette explosion n'existe en 2024, il y a plein de gens qui avaient travaillé sur la conquête. Ça, c'est classique, hein. Mais ils n'avaient pas été entendus. Je citerai par exemple un exemple de livre qui, à l'époque, m'avait beaucoup impressionné et qui n'avait pas reçu d'écho. C'était un livre qui avait été écrit par un éditeur devenu écrivain, qui s'appelait François Maspero, et qui a écrit un livre qui s'appelait « L'honneur perdu de Saint-Arnaud ». Dans ce livre, « L'honneur perdu de Saint-Arnaud », François Maspero a raconté l'histoire de Saint-Arnaud, qui était un officier français de la conquête, et il a reconstitué cette histoire à travers les lettres que Saint-Arnaud adressait à sa famille et à sa fiancée en particulier. Et c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire que Saint-Arnaud raconte tranquillement tous les massacres qui ont eu lieu sous sa direction, où il expliquait par exemple que à force de décapiter et de tuer, il avait mal au bras et qu'il avait du sang jusqu'à la ceinture. C'est dans son livre, dans son témoignage, dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il explique, que j'ai reproduit dans le livre évidemment. C'est-à-dire qu'il dit par exemple que le siège de la ville de Constantine a duré un an de bataille absolument terrible. Il n'y a pas que Saint-Arnaud, bien entendu, il y a d'autres officiers comme Pélissier, bien sûr, tout le monde connaît Bugeaud maintenant, etc. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce livre, c'est-à-dire que cette guerre n'était pas une excursion, ni une promenade de santé. Ça a été terrible. C'est-à-dire que ça a été une bataille où il y a eu une résistance farouche, un peu semblable, c'est l'expression que j'utilise dans le bouquin, à ce qu'a été la conquête de l'Ouest pour les Américains. Mais c'était au Sud, avec effectivement un territoire qu'on considérait comme vierge, alors qu'il était plein d'indigènes, plein d'habitants, hein. C'est-à-dire qu'on considérait que tous ces gens n'existaient pas, alors qu'ils étaient là, et bien là, puisqu'il y avait 3 millions d'Algériens quand les Français sont arrivés, et la ville d'Alger était une capitale méditerranéenne de 40 000 habitants. Je veux dire, ce n'était pas une bourgade. Bon, la ville de Constantine aussi était une ville très importante, la ville de Mascara était une ville très importante, Tlemcen, bien sûr, etc., etc. Bref, la conquête a été difficile. Et cette conquête, elle s'est accompagnée non seulement de massacres comme les enfumades en 1845, dans le Dahra, etc., mais elle s'est accompagnée aussi d'un processus quasiment unique dans l'histoire de la colonisation française, c'est l'installation d'une colonie de peuplement. C'est-à-dire les Européens, ce qu'on appelle les Européens, c'est-à-dire venant de tous les coins de la Méditerranée, notamment de l'Espagne et de l'Italie, donc ces immigrés qui sont venus d'Espagne et de l'Italie et qui se sont établis en masse en Algérie avec des métropolitains, bien entendu, dont certains venaient d'Alsace-Lorraine, d'ailleurs, après la défaite de 1870, et avec, bien sûr, des soldats hein, qui se sont enracinés, etc. Et donc, on a assisté à quelque chose d'absolument unique dans l'histoire française de la colonisation, qui est l'installation d'une énorme colonie de peuplement, donc d'une dépossession foncière, donc un déplacement de population paysanne considérable. Tout ça était colossal, je veux dire. Et peu étudié, on avait le sentiment, disons, que tout cela se faisait de manière presque évidente, logique, etc., puisque à un moment donné, en 1845, c'est dans le livre, eh bien, le pouvoir politique de l'époque français en place décide le rattachement purement et simplement administratif de l'Algérie à la France. Ce sont des départements français. C'est le seul exemple de toute l'histoire coloniale française, Indochine, Sénégal, Maroc, Tunisie, etc., où en fait une colonie devient un département. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a, en 1845, l'Algérie française devient française avant la Savoie, qui est française en 1860. C'est-à-dire qu'il y a un rattachement de l'Algérie au ministère de l'Intérieur, et non pas au ministère des colonies. Et l'Algérie va être administrée pendant 130 ans par le ministère de l'Intérieur, et non pas par le ministère des colonies. Le ministère des colonies, c'est pour les conquêtes coloniales classiques. C'est-à-dire, bon, le Tonkin, la Nam, la Tunisie, je ne vais pas vous faire ici tout un cours comme je fais à l'Hidalgo et tout ça. Donc, vous avez toute une série de, disons, de conquêtes coloniales avec un point de repère fondamental à partir des années 1880, c'est surtout ne pas faire comme en Algérie. On va faire des protectorats, mais on ne fera pas comme en Algérie. Parce qu'en Algérie, c'est insoluble. Insoluble.
Oui, donc c'est des départements, mais ça n'est pas si évident, la mise en place de cette administration, parce qu'il y a des hésitations aussi.
C'est insoluble parce que la majorité de la population indigène n'a pas accès à la nationalité française. Donc c'est littéralement insoluble. C'est-à-dire que vous avez à la fois une proposition d'un modèle d'intégration sans que la citoyenneté soit donnée, à l'exception d'une fraction indigène qui était les Juifs d'Algérie via le décret Crémieux de 1870, mais ça devient quelque chose d'ingérable. D'ingérable, parce que c'est trois départements français, Alger, Oran, Constantine, mais dont la majorité de la population n'a pas accès à la citoyenneté française, c'est-à-dire les indigènes musulmans. Je vais à l'essentiel. Et donc, à partir de là, il y a une contradiction dans la gestion qui est très, très difficile à régler. Alors, évidemment, les pouvoirs politiques français qui vont se succéder vont essayer de régler cette question-là. Par exemple, Napoléon III, en 1860, dans le livre, vous avez vu la publicité à chaque fois. Donc, en 1860, Napoléon III invente une idée. Il dit, on va faire un royaume arabe. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer les élites musulmanes, pourquoi pas l'émir Abdelkader, l'homme qui avait le plus résisté à la pénétration coloniale française de 1832 à 1847, pourquoi pas, après tout, essayer de construire, disons, une sorte de royaume rattaché à la France, mais avec une sorte d'autonomie, en fait. Eh bien, ce n'était pas possible. Les colons, déjà à l'époque, et surtout les militaires, qui étaient très, très forts politiquement en Algérie, ça va beaucoup changer, enfin, fermons la parenthèse. Donc, les militaires, qui ont donc le pouvoir, par conséquent, interdisent la formation du royaume arabe, c'est-à-dire la possibilité d'une existence autonome de l'Algérie. Non, l'Algérie doit être intégrée à la France, complètement intégrée. Et ce sera le leitmotiv qui va courir tout au long de cette histoire jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire la question de l'intégration, de la bonne intégration. Il faut bien intégrer. Mais précisément le problème, c'est que vous ne pouvez pas bien intégrer si la majorité de la population n'a pas accès à la citoyenneté. Ce n'est pas possible. Il y a une contradiction fondamentale dans cette histoire.
Toute la contradiction de l'expression Algérie française, de toute façon.
Et c'est dans cette contradiction que va naître le nationalisme algérien moderne, contemporain, pour dénouer cette contradiction.
La Première Guerre mondiale, elle joue un rôle dans l'émergence de ces mouvements.
Incontestablement, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, c'est comme toutes les guerres, il y a une accélération de l'histoire. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a mobilisé 173 000 Algériens, qu'on n'appelait pas Algériens à l'époque, hein, qui étaient des indigènes musulmans nord-africains. 173 000, c'est considérable, dont il y a en plus aussi 25 000 Européens, qu'on appellera plus tard les pieds noirs, etc. Mais c'est une accélération de l'histoire. Pourquoi ? Parce que vous avez 170 000 hommes qui découvrent, pour la première fois de leur vie, la France. Ça paraît extraordinaire. C'est-à-dire que la plupart sont d'origine paysanne, enrôlés. Certains, d'ailleurs, avaient refusé de participer. Ils ont été réprimés dans les Aurès en 1916. Il y a eu une grande révolte en 1916. Il y a sans arrêt des histoires de révolte en Algérie. Mais celle de 1916, elle était particulièrement importante. Et ils ont été enrôlés, et donc ils ont été emmenés en France sur les champs de bataille. Et là, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert que la métropole française, c'était pas l'Algérie française. Par exemple, le tutoiement. Par exemple, la possibilité d'être considéré comme un être humain à part entière. Par exemple, la nécessité de rencontrer des gens qui appartenaient à ce qu'on appelle plus, malheureusement, le mouvement ouvrier, le socialisme, c'est-à-dire les grèves de 1917, les mutineries, c'est-à-dire la liaison avec ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, etc. C'est-à-dire que la plupart de ces hommes, lorsqu'ils reviennent au pays en 1918-19, ils ont leur conscience qui a totalement changé. Le cas le plus emblématique, bien sûr, c'est celui de Messali, bien entendu, qui, lorsqu'il revient à Tlemcen en en 1919, ne songe qu'à une chose, c'est de revenir en France avec la conscience aiguë politique qui est la sienne, c'est-à-dire de se lier à la gauche socialiste française à l'époque, qui était très engagée dans l'anticolonialisme, notamment au moment de la guerre du Rif en 1923-24-25. Et donc vous avez toute une génération d'immigrés qui, échappant à la pesanteur d'une société coloniale de l'autre côté de la Méditerranée, viennent respirer le parfum de la liberté au contact du socialisme et du mouvement ouvrier français, qui leur offre la possibilité de s'organiser, ce qui était impossible en Algérie. C'est-à-dire qu'il y avait une impossibilité de pouvoir s'organiser en tant que tel. C'était très, très compliqué. Alors qu'en France, il y avait cette possibilité-là qui s'ouvrait à eux. Et donc, création de l'étoile nord-africaine en 1926, c'était il y a 100 ans, par des immigrés algériens en France. Alors, cette création-là, dans l'histoire officielle algérienne, n'est pas reconnue en tant que telle, parce que ça s'est né en dehors du territoire national. Donc, à partir de là, comment accepter ou faire intégrer ou construire un récit national qui fasse la part belle à ceux qui sont extérieurs au territoire national ? Cette vieille contradiction, on la retrouvera dans la guerre d'Algérie elle-même, où les gens de la Fédération de France vont ensuite être écartés du pouvoir politique parce que suspect d'être trop proche du mouvement ouvrier. Enfin bref, c'est encore une autre discussion. Donc on a par conséquent une contradiction avec la création de l'étoile nord-africaine en France, mais en Algérie même, sur le sol algérien, il y a quand même deux tendances qui vont émerger, dont on parle, et qui, eux, vont jouer sur la contradiction dont j'ai parlé, c'est-à-dire, vous dites que nous sommes français alors que nous ne le sommes pas. Et celui qui va exprimer cette contradiction, c'est Ferhat Abbas, qui va expliquer qu'il veut entrer à égalité dans la cité française. Donc il veut qu'on par conséquent, qu'on lui donne cette citoyenneté, qu'on lui refuse. Donc il va se battre pour ce qu'on appelait à l'époque l'assimilation républicaine. C'est-à-dire que le mouvement en Algérie, proto-nationaliste, eh bien, il va naître dans la mise en contradiction de la République et de ses principes. C'est-à-dire la non-application des principes de la République. Et donc Ferhat Abbas, avec son ami Benjelloul, qui est un notable de Constantine, et lui est pharmacien, qui sont les premières élites, entre guillemets, indigènes de l'époque qui se dégagent, ils vont se battre pour l'égalité, en fait. La question de l'égalité. Ce faisant, ils ouvrent une brèche énorme. Ils ouvrent une brèche énorme dans un dispositif colonial très fermé. Hein, donc ils ouvrent des interstices. Et avec eux et à côté d'eux, il y a un mouvement religieux qui s'appelle le mouvement des Ulema, qui est créé par Ben Badis, qui lui aussi va ouvrir une brèche. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, pourquoi la religion musulmane ne fait pas partie de la loi de la séparation de l'Église et de l'État telle qu'elle a été votée en 1905 en France, alors que l'Algérie, c'est la France ? Pourquoi est-ce que l'islam doit être géré par le ministère de l'Intérieur, alors que les autres cultes, normalement, sont séparés de l'État ? Pourquoi, pour ce qui concerne la religion musulmane, désignation des imams, contrôle des mosquées, construction des... etc. Pourquoi est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur ? Alors, des mauvais esprits diront, ça a vraiment changé aujourd'hui ? Fermons la parenthèse. Donc, on a, par conséquent, Corif, etc., bon, CFCM, enfin bon, bref, je passe. Donc, on a, par conséquent, encore des traces qui perdurent. Mais le mouvement des Ulema, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous voulons la séparation. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'eux aussi jouent sur la contradiction. Ils disent, puisque vous êtes pour la laïcité, laissez-nous diriger nous-mêmes notre culte. Laissez-nous diriger et organiser le culte avec les imams, etc., etc. Donc ils refusent la mainmise de l'État sur la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'eux, ils sont laïcs. C'est un processus de sécularisation, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire qu'en se réclamant de plus de religiosité, ils accentuent la contradiction vers plus de sécularisation. C'est compliqué, l'Algérie, toujours. Hein. C'est des trucs vraiment compliqués. Donc, vous avez, par conséquent, trois mouvements. Un en France, très radical, qui est pour l'indépendance, c'est l'étoile nord-africaine. Et vous avez deux mouvements en Algérie, qui sont pour l'assimilation, entre guillemets, l'un sur le plan politique, Ferhat Abbas, l'autre sur le plan religieux avec le mouvement des Oulémas. C'est-à-dire qu'avant même la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1939, déjà vous avez l'éveil d'un nationalisme politique au moment même où, en 1930, il y a ce qu'on appelle les fêtes du centenaire.
Oui, attardons-nous un petit peu sur 1930 et 1931, du côté de la France. Du coup, ces fêtes du centenaire, qu'est-ce qu'elles révèlent de la vision, justement, de l'Algérie ?
Bah, en 1930, ça fait 100 ans que la France est en Algérie. En 2030, ça fera 200 ans. Donc, c'est une plaisanterie. Donc, en 1930, donc, un siècle de présence française. Fête grandiose du centenaire. L'Algérie restera éternellement française. Le récit qui est proposé à cette époque, en 1930, avec des fêtes grandioses, hein, vraiment. Films par Jean Renoir, des débarquements reconstitués à Sidi Ferruche, avec des figurants. Enfin, y a vraiment, c'est un gros, gros truc, hein, vraiment. Et le récit qui est proposé en 1930, c'est lequel ? Dans le fond, l'Algérie française restera toujours française. Pourquoi ? Parce qu'avant l'arrivée de l'islam, etc., c'était une terre chrétienne. C'était et appartenait à l'Empire romain. Donc, en fait, la France n'a fait que se réajuster à une histoire qui avait été une mise entre parenthèses, grosso modo, du 7e, 8e siècle jusqu'au 20e siècle. Et donc, il va falloir valoriser l'héritage, le patrimoine latin, la latinité de l'Algérie française. Et c'est ce à quoi vont s'employer toute une série d'historiens coloniaux de cette époque-là, en proposant des récits de la latinité de l'Algérie.
Mais du coup, une forme d'amnésie de la conquête elle-même, en elle-même, véritablement.
C'est la conquête, à ce moment-là, elle est réinterprétée comme une. On reprend possession d'un territoire qui appartenait avant à la chrétienté. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on revient, disons, sur une histoire qui était la nôtre. On reprend possession de cette histoire. Et donc, par conséquent, on met entre parenthèses 1500 ans d'histoire. C'est quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que vous mettez entre parenthèses tous les facteurs, disons, d'assimilation culturelle par la civilisation, bien sûr, j'allais presque dire musulmane, mais aussi judéo-musulmane. C'est-à-dire que c'est une civilisation, en fait, qui existait entre grosso modo le 7e, 8e siècle, pratiquement jusqu'au 19e, avec entre-temps, bien sûr, je vous passe et je vous épargne les détails, mais il y a essentiellement aussi, bien sûr, les Ottomans, qui sont des musulmans pendant 3 siècles et qui sont en Algérie jusqu'à l'arrivée des Français au 19e siècle. Donc il y a une mise entre parenthèses dans le récit historique. Dans le récit historique constitué, il y a une mise entre parenthèses avec insistance sur le fait qu'il y a des populations d'origine berbère qu'il faudrait christianiser par rapport, disons, à des populations considérées entre guillemets comme arabes qui ont été islamisées. C'est-à-dire qu'il y a une introduction, disons, d'un imaginaire qui va se mettre en place à partir de cette époque-là sur le rejet de la civilisation anti-islamique vue comme exclusivement arabe. Et donc un refus de l'arabité. Un refus de l'arabité comme civilisation, comme culture, etc. Et c'est ce récit-là, disons, qui va imprégner une grande partie des élites intellectuelles françaises de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais quand je parle de ça, on me dit « Ah ben oui, c'est vrai, c'est pas faux, ça. » Mais oui, pourquoi on va chanter Tipaza ? Pourquoi on va chanter les ruines de Timgad ? Pourquoi on va se rappeler tout ça ? C'est parce qu'en fait, c'est un récit qu'on propose, qui est un récit de retour aux sources hanté, islamique, dans le sens non pas berbère, mais arabe du terme. Alors, c'est un peu compliqué, là. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que les berbères, qui constituaient la population d'origine de toute l'Afrique du Nord, ont été islamisés. Okay ? Et donc, quand on dit islamisé, aussi, quelque part, arabisé. C'est-à-dire que vous avez des secteurs, des coins, des régions entières, au bout de 10 siècles, c'est-à-dire 1000 ans, d'histoire, où en fait certains ont perdu l'usage de la langue berbère au profit de la langue arabe. Si je prends mon exemple personnel, à Constantine, on ne parlait l'arabe, mais on ne connaissait rien du berbère. Ça n'existait pas. La langue n'existait pas dans les Aurès. Moi, ma famille est originaire des Aurès. Personne n'avait entendu parler du berbère. C'était l'arabe. Ce qui était la langue, disons, la langue de communication ordinaire. Or, la plupart de ces gens étaient des berbères d'origine. Alors, il y a des enclaves comme la Kabylie où, effectivement, le parler d'origine a été préservé. Mais c'était des régions particulières. Mais l'immense majorité, en fait, avait connu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une assimilation culturelle qui avait duré plus de 1000 ans. 1000 ans de civilisation commune, je veux dire, bon, de parler commun, au niveau de la littérature, au niveau de la philosophie, de la religion, de la poésie, de tout ce qu'on veut, de la musique. Ça, c'est très important. La musique, par exemple, dans des villes comme Tlemcen ou Constantine, c'était pas de la musique berbère, c'était de la musique maalouf, c'était la musique arabe. Ça n'existait pas de la musique berbère. Bon. Mais pourtant, c'était tous des berbères. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Hein. Bon, mais la question, en fait, c'est que le récit proposé va s'imprégner progressivement dans la population européenne, dont on va la convaincre qu'elle est dans son bon droit, en fait, à travers ce récit mythologisé. C'est-à-dire que le récit de la latinité de l'Algérie française va imprégner les élites européennes d'autant plus facilement qu'une grande partie d'entre elles est antisémite, c'est-à-dire fondamentalement anti-arabe et anti-juive. Je parle de l'entre-deux-guerres, hein, les années 30-40, où là, il y a un antisémitisme féroce, hein, contre les indigènes assimilés, en fait. Hein. N'oublions jamais, par exemple, que, c'est dans le livre, que Édouard Drumont, vous connaissez sûrement Édouard Drumont, la France juive connue, grand, hein, Édouard Drumont était député d'Alger. Il ne faut jamais oublier ça. Il venait de là, d'Alger. Hein, c'est là son ancrage, je veux dire. Donc ça veut dire que les indigènes, même lorsqu'ils deviennent français, restent des indigènes suspects. Je parle là des juifs d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore forcément fondamentalement et complètement français. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se rattachent pas à une forme de récit historique latinisé, qui était celui de l'Empire romain, disons, qui va jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, etc., etc. Donc c'est très profond, c'est-à-dire que lorsque Pétain prend le pouvoir en 1940 en France, ce récit de la latinité et de l'Algérie française est au zénith. Je veux dire, c'est tous les indigènes ne sont pas, ils n'ont pas la possibilité de se sentir pleinement sur cette terre. Et c'est l'abrogation l'abrogation du décret Crémieux, c'est-à-dire qui a donné la possibilité aux Juifs d'Algérie de devenir français et ils redeviennent des indigènes, ce qui est normal, parce que c'était des indigènes, donc ils redeviennent des indigènes. Et donc, comme disait Ferhat Abbas, nous ne voulons pas de cela, c'est-à-dire que lorsqu'on lui a proposé de prendre les biens des Juifs, il a dit non, nous on ne veut pas l'égalité par le bas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ça, on ne veut pas retomber par en bas, on veut être dans l'égalité par le haut. Hein, c'était la réponse qu'il avait faite quand on était venu le voir sur la question du décret Crémieux, etc. Donc, on est par conséquent dans une situation explosive, en fait, fondamentalement. Au bout d'un siècle, au bout d'un siècle de présence française, c'est beaucoup un siècle, hein, c'est 6 générations, hein, c'est colossal quand même, hein, c'est pas... C'est pour ça quand on pose souvent la question, oui, mais quand même, on ne pourrait pas en finir avec cette histoire. Ça suffit. Regardez le Vietnam, par exemple. J'entends ça souvent quand je vais à la télévision. Regardez le Vietnam, hein, quand même. Eux, ils sont gentils dans le 13e arrondissement, quand même. Hein, c'est pas comme les Arabes, quand même, il faut arrêter, quoi. Ce à quoi je réponds simplement qu'au Vietnam, il n'y avait pas 1 million de Français qui y vivaient pendant un siècle et demi. Il n'y avait pas ça au Vietnam. Il y avait 50 000 Français qui vivaient au Vietnam. Ça n'a rien à voir. Il y avait une colonie de peuplement qui était gigantesque, de gens qui se vivaient comme Français à part entière depuis 6 générations. Quel équivalent vous avez à ça? Vous n'avez pas ça au Maroc, vous n'avez pas ça en Tunisie, vous n'avez pas ça. La preuve, c'est que les gens qui vivaient au Maroc ou en Tunisie, au début, par exemple, du XXe siècle, ils aspiraient qu'à une seule chose, c'était de rentrer dans l'Algérie française pour accéder à la nationalité française. Vous voyez ce que je parle des indigènes. Hein. Disaient, il faut franchir la frontière, comme ça on devient français. Bon, c'était parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils vivaient dans un régime de protectorat, de sous-citoyenneté. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point, cette histoire d'une France enracinée dans le temps est très forte dans l'histoire des rapports franco-algériens. C'est très, très fort, c'est très puissant. C'est-à-dire que c'est une imbrication qui va créer ensuite une sorte d'espace mixte culturel considérable, pas simplement par l'intermédiaire de l'immigration, au sens classique ouvrier du terme, qui elle-même va se développer, bien sûr, mais aussi par le brassage culturel de populations vivant sur place, je veux dire européens, soldats musulmans supplétifs de l'armée française, qui ont combattu dans la Seconde Guerre mondiale, qui ensuite vont combattre pendant la guerre d'Algérie. Ça fait beaucoup, beaucoup de populations qui se sentent complètement français, rattachées à une histoire algérienne extrêmement bizarre, extrêmement compliquée quand même. Hein. Je veux dire, c'est quand même très, très compliqué.
Tout à fait. Du coup, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comment ça se passe? Comment on arrive au manifeste du FLN? Comment on arrive au conflit armé? La décision de prendre les armes? Quels sont un peu les grands jalons qui mènent à cette guerre? Et parce que là, on n'a pas le temps, on ne va pas raconter toute la guerre d'Algérie, mais comment
ensuite... Surtout qu'il est 9h-5, donc on peut s'arrêter à 9h.
Non, mais tout à fait. Mais comment on
peut s'arrêter dans 5 minutes, hein, dans le timing. Hein, dans le timing, normalement, on s'arrête à 9h parce qu'après, il y a le peuple qui doit parler. Donc on ne peut pas continuer le débat.
Du coup, on peut peut-être parler des mouvements de population.
Pardon ?
La population qui
la guerre, la guerre d'Algérie, en deux mots, parce qu'il reste 5 minutes environ, 5-6 minutes. Bon, c'est la fin de cette histoire, en fait. Hein. On arrive à la fin de cette histoire, va être d'une très grande violence, parce que cette histoire, elle a commencé dans la violence extrême, elle finit dans une violence extrême. Bon. Et c'est ça le grand problème. C'est-à-dire que, quand je dis violence extrême, c'est quelques chiffres... dans la guerre, entre 1956 et 1961, 2 millions de paysans algériens ont été déplacés par l'armée française. 2 millions ont été déplacés, complètement déplacés, 2 millions. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur territoire d'origine pour être transférés dans des camps de regroupement. 2 millions. Ça, c'est la France qui a fait ça. Hein. Vous avez, dans le même temps, environ 3000 villages qui ont été détruits. Qu'on a fait sauter, quoi, hein, je veux dire, parce qu'ils étaient soupçonnés d'abriter des rebelles, je reprends les expressions de l'époque. Hein. Donc il y a environ 3000 villages qui ont sauté. Donc je prends ces deux chiffres parce que ça fait écho naturellement à ce qu'on vit en ce moment, bien entendu, tout le monde a compris, c'est pas la peine de faire des sous-titres. C'est une entreprise, disons, de guerre totale qui nous renvoie à la guerre de conquête, quelque part. C'est-à-dire la guerre de conquête. C'est celle de la pratique des colonnes infernales. C'est la pratique des colonnes infernales qui avait été expérimentée en Vendée, d'ailleurs, par la Révolution française. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prisonniers, quoi, pour aller vite. Ben, dans la guerre d'Algérie, il y a une expression qui a surgi, qui était celle des corvées de bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prisonniers. On fait très peu de prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a les camps de regroupement pour les personnes déplacées, mais pour les combattants qui sont pris les armes à la main, il n'y a pas de prisonniers. Donc ça fait beaucoup de gens qui ont été exécutés, beaucoup de corvées de bois. Donc une très grande violence. Et en contrepartie, vous avez une contre-violence aussi exercée par les nationalistes algériens à l'égard des populations civiles, bien sûr, qui va être aussi très très violente hein, pour imposer l'idée d'une nation séparée de la France parce que ces nationalistes, au point de départ, effectivement, étaient minoritaires, y compris dans leur propre société. Il a fallu qu'ils affrontent aussi une société qui avait été culturellement déraciné par un siècle de présence coloniale. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les nationalistes révolutionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure, Boudia, Faït Ahmed, Krim Belkacem, tout ce qu'on voudrait, etc., l'Arbi Ben Midi, moi j'en ai rencontré un certain nombre, pas ceux qui étaient morts pendant la guerre, mais beaucoup après, hein, ils sont, dont certains, je les ai interviewés dans un film, si ça vous intéresse, qui s'appelle « L'indépendance aux deux visages », qui a été diffusé en 2002, où j'ai interviewé 10 acteurs hein, de la révolution algérienne, Youssef Ratib, Saoud Al-Arab, Ali Haroun, Mohamed Harbi, Aït Ahmed, etc., et où ils racontent leur histoire, leur vie, etc. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? c'est qu'ils ont dû, y compris, affronter les préjugés de leur propre société pour se lancer dans l'action révolutionnaire. Parce qu'il y avait la pesanteur aussi d'une société qui avait été disloquée, une société écrasée. Et donc il a fallu précisément aussi être à contre-courant quelque part, disons, de leur propre société pour enclencher et sortir de la situation coloniale, sortir du verrou, le faire sauter, le verrou colonial. Donc une violence, donc une contre-violence extrême. Et on ne peut pas comprendre cette contre-violence si on ne la ramène pas au blocage inouï de la société coloniale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de sortie. Et donc, lorsqu'il y a eu la défaite française à Dien Bien Phu le 9 mai 1954, ça a été un coup de tonnerre. C'est-à-dire que Dien Bien Phu a été un coup de tonnerre au Vietnam. On revient au Vietnam. Bon, non, je dis ça parce que j'ai eu une polémique à la télé là-dessus. Je reviens, le mec il me dit le Vietnam. J'ai dit, mais le Vietnam, la fête nationale vietnamienne, c'est la défaite de Dien Bien Phu. Si vous voulez que je vous dise d'autres. Hein, on ne fait pas mieux quand même. Hein, quand ils disent, oh, on a oublié les Vietnamiens, ils ont oublié la France. Non, non, non. Vous allez à Hanoï, la principale avenue, c'est l'avenue Dien Bien Phu. Et la fête nationale, c'est le 9 mai. Bon, pourquoi? Pourquoi? Bon, enfin bref, fermons la parenthèse. Donc, on a par conséquent une violence contre les populations civiles et une contre-violence aussi qui va être terrible et qui va durer quand même presque 8 ans et qui va se poursuivre, y compris même après la guerre, hein, même après la guerre, après l'indépendance. Mais on ne peut comprendre, disons, ce déferlement en fait, hein, de violence extrême que si on la rapporte, disons, à l'enracinement dans la temporalité historique très longue d'un siècle et demi de présence française.
Oui. Et c'est donc ce que souhaitait, c'était le projet de ce livre « France-Algérie, anatomie d'une déchirure ». Donc on n'aura pas le temps d'aller au-delà des propos sur les mémoires que vous aviez fait au début de cet entretien. Peut-être que dans les questions du public, nous aurons l'occasion de revenir sur la situation actuelle et la bataille mémorielle que vous citiez aussi dans votre autre ouvrage « Doit-on s'excuser de la colonisation ?» Mais on va vous laisser un petit peu la parole pour pas trop la monopoliser de notre côté, pour pouvoir poser les questions que vous souhaitez poser aussi à Monsieur Stora. Merci.
Oui, bonsoir, je me présente. J'habite une ville sous-préfecture de Toul. Et je pense que vous êtes beaucoup à savoir qu'à Toul, on a mis en effigie une statue d'un homme remarquable qui a fait la bataille d'Alger, qui s'appelle le général Bijard. Alors, je voudrais savoir un petit peu dans ce contexte particulier où effectivement la France et l'Algérie sont, je dirais, à coude très tordus. Est-ce que ce phénomène de mettre une statue et de vénérer ce qu'il a été pendant la bataille d'Alger permet une meilleure relation, une meilleure vision avec nos amis et nos frères algériens? Et ensuite, dans ce discours qui est quand même, je dirais, d'une violence inouïe et avec des relents antisémites et anti-musulmans qui sont d'actualité, comment on peut analyser ce phénomène de mettre une statue en 2024 qui représente Bijard? Je voudrais un petit peu avoir votre avis. Merci.
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, le fait qu'effectivement, on assiste à une sorte de retour du souvenir de l'Algérie française. Par exemple, ce matin, est en vente dans les kiosques, un grand numéro de Valeurs Actuelles, Algérie française. 180 pages, je vous le recommande, avec un beau texte de Charles Bourras. Donc, pourquoi ce retour? Parce que, paradoxalement, il y a eu des avancées qui ont été faites en France sur la question. C'est-à-dire que, moi j'ai fait un rapport, il y a eu des préconisations qui ont été réalisées. C'est-à-dire que la France a reconnu l'enlèvement, l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumengel, de Larbi Ben Midi. La France a reconnu officiellement sa responsabilité dans le tort qui a été fait, plus que ça, au Harki en particulier. Et il y a une statue qui a été faite en l'honneur, en hommage à l'émir Abdelkader dans la ville d'Amboise, où il a été retenu en captivité. Il y a eu l'ouverture des archives, la mise en place d'une commission mixte des historiens français et algériens. Bon, je peux continuer comme ça. Il y en a 22 préconisations. Mais j'arrête là. Pourquoi? Parce que on a, ces dernières années, extraordinairement avancé vers le fait de regarder en face cette histoire. Et c'est précisément parce qu'on a avancé vraiment, qu'on a reconnu un certain nombre de choses, qu'il y a eu une rétractation, je veux dire, des partisans, disons, de l'ancien temps, de l'Algérie française, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et qui se replient, disons, qui refusent l'histoire accomplie. C'est-à-dire qu'ils viennent se réfugier sur le territoire de « c'était mieux avant ». C'était mieux avant, c'était l'Empire. Lorsque les frontières de la France s'étendaient au Maroc, au Mali, en Mauritanie, en Libye, en Tunisie. C'était ça la frontière. Hein. La France, les douaniers hein, et tout ça. Hein. C'était les frontières. Vous rendez compte de ce que c'était la France ? Mais maintenant, c'est Narbonne. C'est, vous voyez, ça s'est réduit. Hein. Donc, ce problème de réduction, entre guillemets, géographique, n'est pas que géographique. Il est dans les imaginaires. Il est dans les mentalités. C'est-à-dire, c'est un rétrécissement du nationalisme français. Donc il faut, par conséquent, réactiver une mémoire d'un nationalisme français qui soit beaucoup plus large. Et donc, à partir de là, retrouver la possibilité, effectivement, de nommer des héros comme Bijard, entre guillemets, bien entendu, etc., etc. C'est-à-dire que le mouvement de balancier vers l'extrême droite, du point de vue de la mémoire coloniale, il obéit aussi au fait qu'il y a eu des gestes de reconnaissance officiels de l'État français. Il obéit aussi au fait qu'à la différence des années 70-80, vous avez pléthore de chercheurs et de jeunes chercheurs français qui travaillent sur l'histoire coloniale, l'esclavage, la colonisation, la guerre d'Algérie. Tout à l'heure, je disais un peu de manière ironique, lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais quasiment seul dans les années 70, au début des années 80. Aujourd'hui, vous avez des bataillons de chercheurs, hein, je veux dire, dans les universités, qui travaillent sur l'histoire coloniale, etc. Donc, ça veut dire que ça a avancé considérablement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a repris possession d'une histoire qui n'était pas celle-là, qui n'était pas l'histoire d'avant. Et donc, c'est par rapport à ces avancées-là, que ce soit sur le plan politique étatique, même si c'est imparfait, tout ce qu'on voudra, mais enfin, il y a quand même des pas en avant qui ont été faits. Donc, que ce soit sur le plan de la reconnaissance politique ou que ce soit sur le plan de la recherche académique universitaire, des pas en avant considérables ont été accomplis. Par exemple, des sujets sur la guerre d'Algérie sont tombés au baccalauréat l'année dernière. L'examen, l'étude de la guerre d'Algérie n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, sauf si certains enseignants, très motivés idéologiquement, enseignaient à titre personnel. Mais ça n'existait pas dans les manuels scolaires, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui a été acquis gêne ceux qui ne veulent pas que cette histoire avance. Et moi, mon problème, c'est quoi ? C'est que tous ces gestes que j'avais proposés et qui ont été actés, Audin, Boumengel, enfin, je ne vais pas recommencer la liste, etc. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? C'est ça mon problème, moi. Est-ce que la France va revenir sur sa parole par rapport à tout ce qu'elle a reconnu sur tous ces assassinats, ces tortures, ces gestes, le 17 octobre 61 vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on va revenir là-dessus ? Dans la mesure où ce n'est pas sanctuarisé sur le plan législatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, disons, sur le plan législatif, une loi, par exemple, que j'avais proposée sur la question de la restitution des biens, notamment des archives. Or, il n'y a pas de sanctuarisation législative. C'est des gestes qui viennent du sommet de l'État sans mobilisation en bas, citoyenne, d'acceptation, de reconnaissance de ces gestes. Là, c'est un petit coup de pied à la gauche que je donne là. Parce que tout ce qui a été accompli, tout ce que je viens de vous dire, sur Audin jusqu'à Boumengel, etc., ça ne s'est pas fait avec des mobilisations politiques. Il n'y a pas eu des meetings à la mutualité, il n'y a pas eu des tracts, il n'y a pas eu des communiqués de partis politiques de gauche pour dire « nous sommes d'accord avec ça ». Ça n'a jamais existé. Je me suis retrouvé un peu seul, quoi. Hein, ça pour vous dire ça comme ça. Hein. Je me suis retrouvé un petit peu seul. C'est-à-dire que j'attendais un secours de la gauche traditionnelle hein, qui n'est jamais venu. Donc ça aussi... Je m'en fous, moi. Je le dis comme je le pense. Hein. C'est-à-dire que ces gestes, ils ont été accomplis par en haut et ils risquent d'être remis en question par en bas. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que lorsque Il y a eu la mise en place de ce qu'on a appelé la commission mixte des historiens, vous savez, français et algériens. On s'est réunis 5 fois dans l'année 2023, avant l'histoire du Maroc et tout ça. Les Algériens, ils ont posé une question, très simple. Quel est le budget de la commission mixte du côté français? Monsieur Stora, combien vous avez touché pour faire votre rapport? Réponse de Stora, zéro. Zéro. Zéro euro. Ils ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est du bidon, votre histoire. Il n'y a pas de budget, y a pas de, les gens ne sont pas payés, rien du tout. C'est quoi cette mise en chantier mémorielle? C'est quoi cette histoire? Parce que nous, de notre côté, quand on est allé en Algérie, avec les historiens français, on s'est retrouvé face à un espèce de bâtiment avec des secrétaires, des mecs avec des archives. Mais c'est incroyable! Et quand ils sont arrivés à Paris, on a dit, bon, il va falloir qu'on paye les taxis des mecs qui, quand ils viennent de l'aéroport, comment on va faire? Mais je rigole pas! Je rigole pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la mémoire et toutes ces conneries-là, à un moment donné, ça coûte combien? C'est quoi le budget? Il y a quelque chose qui a été décidé en interministériel? Il y a une mobilisation qui s'est faite à l'Assemblée nationale sur cette question-là? Des gens se sont élevés pour dire, est-ce qu'on a un budget qui a été voté sur la question, par exemple, d'envoyer des gens sur les essais nucléaires, parce que ça coûte cher, d'envoyer des délégations, etc. Est-ce qu'il y a une instance qui a été créée, une instance politique, juridique, culturelle, administrative? Non. Donc, résultat des courses, quand j'ouvre mon ordinateur, comme vous tous les matins, qu'est-ce que je vois? Bonjour, monsieur Stora, mon père a disparu en 1957, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bonjour, monsieur Stora, j'ai perdu mon grand-père, etc. Ça veut dire que avec l'histoire du rapport et avec et grâce à la technologie d'Internet, le numérique, etc., les mecs, ils ont la possibilité d'un accès direct sur moi, notamment par l'intermédiaire de mon site. Et donc, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'institution politico-juridique qui permette de gérer cette mémoire extraordinaire de millions de personnes. C'est des millions. C'est-à-dire les Européens d'Algérie, les Harkis, les Pieds Noirs, les immigrés algériens, enfin les soldats, les appelés, etc., etc. Parce que je vois là, les manuscrits d'appelés, j'en ai à la maison, comme ça. Hein. Les mecs, ils ont, avant de mourir, les pauvres, ils ont tous rédigé leur mémoire. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est des récits pathétiques, émouvants, formidables, etc. Bon, mais moi, je ne suis pas éditeur. Moi, je ne suis pas un mec qui va prendre en compte, disons, toutes ces mémoires blessées. C'est incroyable. C'est à l'État. C'est aux partis politiques de prendre en charge tout ça. C'est à l'État de prendre en charge tout ça, de dégager un budget pour prendre en charge toutes ces demandes de disparus, tous ces récits qu'ils ont envie de publier, toutes ces blessures qu'il faut essayer de guérir. Mais pour ça, il faut faire un diagnostic très précis. C'est que ça a créé un traumatisme profond. Et que si on veut guérir ce traumatisme profond, eh bien, il faut, par conséquent, y mettre les moyens. Et là, on en est très loin. Donc, tout ça, ce que je vous raconte, c'est avant la rupture. Vous savez, la rupture, le Maroc, le Sahara occidental, tout ça, etc. Bon, tout le monde connaît, bien. Mais moi, je vous parle d'avant. Avant, il n'y avait pas de moyens. Ce n'est pas vrai. Du côté français, il n'y avait pas ces moyens-là qui étaient donnés pour précisément ouvrir un chantier. Parce que mon rapport, c'était une ouverture. C'était un démarrage de travail mémoriel. Et ce n'était pas la fin. Parce que qu'est-ce qu'on me disait? Quel était le reproche qu'on m'a fait? Il fallait faire un discours de reconnaissance finale, hein, de la colonisation, puis c'était réglé. Et moi, je répondais non. Ce n'est pas un discours qui va régler 150 ans de présence coloniale et des millions de personnes déplacées. Ce n'est pas possible. C'est tout un chantier. C'est tout un chantier mémoriel. Par exemple, qui va s'occuper d'entretenir les cimetières des Européens en Algérie? L'État algérien? Pourquoi est-ce que ce serait l'État algérien à s'occuper de tous les cimetières des Européens? Que fait l'État français par rapport à ça? Je prends un exemple. Hein. Vous savez, quand on parle de deuil, de travail de deuil, mais c'est les cimetières. Les cimetières, il y en a plein en Algérie. Qui les entretient? Qui prend en charge? Alors bon, il y a l'entretien de Saint-Eugène qui est fait, bon, que la vitrine. Mais à côté de Saint-Eugène, à Alger, combien d'autres cimetières dans toute l'Algérie? Des dizaines, des centaines. Donc ça veut dire des conditions matérielles, disons, qu'il faut mettre en mouvement pour réfléchir, pour prendre en charge toutes ces questions-là. Donc ça renvoie aux questions de budget, aux questions de réparation. Or, on n'en est pas là aujourd'hui. On en est à la question que posait monsieur au fond, Bijard. Vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'au moment où il faut s'avancer sur la mise en œuvre d'un chantier mémoriel, Bijard, un sacré retour en arrière quand même. On se dit, merde, on croit avancer et en fait, par rapport au fait qu'on avance, vous avez des gens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas avancer. Et ce n'est pas qu'à droite et à l'extrême droite.
Du coup, pas trop d'optimisme aujourd'hui. Pas trop d'optimisme aujourd'hui. Il y a un an, vous étiez un petit peu plus optimiste. J'avais lu dans des articles que vous poussiez un peu la jeune génération, mais avec...
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme. C'est vrai, parce qu'il y a, y a le fait qu'on arrive maintenant, au contraire, à grands pas, et de manière très rapide, à une arrivée, au contraire, de gens qui vont vouloir remettre en question ces acquis qui ont été faits. Et je pense que c'est ça. Ma préoccupation, elle est plutôt sur le problème de la préservation, disons, de ce qui a été acquis, plutôt que d'essayer d'avancer vers des solutions, enfin des mots d'ordre nouveaux. Quoi.
Et du côté algérien ?
Du côté algérien aussi. C'est-à-dire qu'on a, bon, parce qu'on peut pas, je peux pas aborder toutes les questions, mais il est évident que si on n'avance pas du côté français, on n'avance pas du côté algérien. Ça fonctionne en miroir. Il y a un effet miroir. Je veux dire que d'abord, il n'y a pas un signe égal entre un colonisateur et un colonisé. Hein, faut jamais oublier ça. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas avancer de la même manière. Donc, on ne peut pas avoir le même récit, quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas possible, ça. Ça, c'est historiquement pas possible. Mais indépendamment de ça, sur le plan de la recherche historique, il est évident que si on n'avance pas, nous, hein, du point de vue, par exemple, de la mise à disposition des bourses pour des chercheurs, des jeunes chercheurs, il est évident que pourquoi les Algériens se substitueraient aux Français dans la mise en place, disons, de ce travail. Quelqu'un qui m'a dit, par exemple, « Mais t'es con ou quoi ? Pourquoi t'as pas demandé aux Algériens de te payer ?» Je dis, « Non, moi, je suis pas Algérien, moi, je suis Français. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Même si beaucoup de gens pensent que je suis fondamentalement Algérien, bien sûr. Hein, il suffit de lire la presse d'extrême droite. Bon. Donc, on a par conséquent une situation où si l'un n'avance pas, l'autre n'avance pas. Vous savez, c'est un pas de deux dans cette histoire-là. Et donc, c'est très compliqué hein, à maintenir. Et il faut être patient, bien sûr, mais c'est à un moment donné, par conséquent, il y a moins d'optimisme et plus de fatigue.
Je suis algérienne des Aurès. Et je voudrais savoir, la France a remis les crânes des Shuhada, mais elle en a gardé certains qui sont dans des cartons. Pensez-vous là, qu'ils vont être donnés bientôt ? Merci.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Il y a des centaines de crânes qui sont déposés au Musée de l'Homme, au Trocadéro. C'est là que j'ai demandé à être filmé, d'ailleurs, pour l'émission que vous connaissez tous, Complément d'enquête, précisément parce que c'est là qu'il y avait les crânes. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, parce qu'on voulait m'interviewer sur les rapports de mémoire entre la France et l'Algérie. Alors moi, naïvement, j'ai cru qu'on allait traiter de cette question. Je me suis trompé, évidemment. Donc j'ai dit, le meilleur moyen de pouvoir traiter de cette question, c'est de prendre un exemple, les crânes. C'est-à-dire, il y a des centaines de gens qui ont été décapités. Par exemple, dans la ville de La Roite, en 1852, il y a tous les chefs de la résistance algérienne ont été décapités, leurs crânes ont été transportés en France et la ville a été rasée. Sur ce plan-là, d'ailleurs, il y a un très beau livre de Xavier Leclerc, c'est un écrivain, son vrai nom c'est Ahmed Taïd Taleb. Xavier Leclerc a sorti un livre qui s'appelle « Le pain des Français », qui est sorti chez Gallimard, que je vous conseille de lire, qui est un très beau livre de recherche historique sur les crânes, sur la décapitation. C'est le dialogue entre un écrivain et une petite fille de 8 ans qui a été décapitée, donc, et dont le crâne est préservé, enfin conservé au Musée de l'Homme. Donc, il y a, comment dirais-je, un problème de restitution qui se pose, pas simplement à travers les archives. Et ce problème de restitution nous renvoie effectivement à la question de la mise en œuvre d'un arsenal législatif. Pour ça, il faut le concours des partis politiques. Or, à ma connaissance, dans les campagnes électorales diverses et variées qui ont lieu, ces questions ne sont jamais abordées. Jamais. Je veux dire, ça n'existe pas. Dans aucun programme de parti politique, ça n'existe pas. Donc, il faut effectivement une loi. Pour ça, il faut qu'elle soit votée et permettant effectivement la restitution, parce que l'argument qui est avancé sur la restitution, par exemple, de les biens, des biens appartenant à l'émir Abdelkader, etc., c'est le fait que l'Algérie étant considérée comme des départements français, ça appartient à la France, c'est donc une propriété inaliénable. Vous voyez ? Donc c'est pas possible de les rendre, parce que c'est français, ça appartient à la France. Donc tout ce qui vient avant 62 appartient à la France, donc c'est pas possible. Donc y compris les crânes. C'est affreux, hein, c'est terrible. Donc on est rentré dans cette situation-là. Donc il faut effectivement avancer vers, disons, une mobilisation à caractère politique citoyenne qui dépasse de loin le caractère simplement des historiens, des spécialistes, etc. Or, on en est loin. Dans l'imaginaire politique français aujourd'hui, cette question-là ne figure absolument pas. Elle existe par contre beaucoup dans la jeunesse africaine, en général, où il y a une vraie mobilisation autour des questions d'histoire, notamment dans le refus de ce qu'on appelle le néocolonialisme français, dans le Sénégal, Côte d'Ivoire, dans tous les pays, je veux dire, d'Afrique aujourd'hui, c'est un mouvement très profond. C'est-à-dire de demande de restitution des biens qui ont été pris, et y compris des crânes, et puis pas simplement des crânes. C'est un vrai mouvement de fond, dont on ne perçoit pas en France l'importance. Je veux dire, qui est un mouvement qui existe en Algérie aussi, bien sûr. C'est un vrai mouvement.
Peut-être une dernière question, car le temps passe.
Bonsoir. Vous avez parlé des révolutionnaires à qui on avait confisqué la révolution. Vous avez parlé de mémoire instrumentalisée.
Excusez-moi, mais je ne vous vois pas. Vous êtes où ?
Ah. Je ne sais pas si en me levant, ça va changer grand-chose. mémoire instrumentalisée, qu'est-ce qu'il en est effectivement de la mémoire du côté algérien ? Est-ce que la commission mixte a fait progresser les choses ? Et si oui, dans quel sens ? Et est-ce que la problématique justement du Sahara occidental a bloqué l'évolution des mémoires ?
Bien sûr, oui, la question du Sahara occidental a été effectivement un obstacle politique qui est venu percuter le travail classique mémoriel, ça c'est évident. Mais ce travail, il a été d'autant plus percuté facilement qu'il n'avait pas été, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, pris à bras-le-corps. Donc ça a été plus facile à être percuté, quoi. Mais effectivement, il faut le reprendre. Du côté algérien, on n'est plus dans la situation des années 70 où le mot d'ordre central, c'était un seul héros, le peuple. Il n'y avait aucun acteur. Tout était anonyme. C'était formidable. Donc tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure n'étaient pas enseignés dans les manuels scolaires algériens. Ça n'existait pas. Ils n'étaient pas enseignés. Donc des personnages aussi importants que Krim Belkacem, qui a signé les accords d'Évian, Monsieur Raït Ahmed, Aban Ramdan... je ne vais pas citer ici tous les grands leaders. Évidemment, Messali, bien sûr, considéré comme un traître, Ferhat Abbas comme un réformiste bourgeois. Enfin, je vous donne toutes les étiquettes classiques, officielles. Mais on n'en est plus là en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un aéroport à Tlemcen qui s'appelle l'aéroport Messali Hadj. Vous avez l'aéroport de Sétif, qui est l'aéroport Ferhat Abbas. Vous avez l'aéroport Aban Ramdan, etc. C'est-à-dire que vous avez quand même une progression, comme en France, qui s'est accompli. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de se réapproprier une histoire réelle qui ne soit pas simplement une histoire fantasmée, reconstruite, mythologisée, etc. Donc il y a une réelle volonté. Et par parenthèse, la visite prochaine du pape en Algérie, Léon XIV, le 14 avril, est une visite extrêmement importante, pas simplement sur le plan diplomatique pour l'Algérie de la sortie de son isolement ou de je ne sais pas quoi, mais c'est aussi le fait de se réapproprier une histoire ancienne et de ne pas laisser cette histoire ancienne aux nostalgiques de l'Algérie française, c'est-à-dire de reprendre possession d'une histoire qui est celle de Saint-Augustin et donc de la vieille histoire berbère de l'Algérie. Donc on a par conséquent un enjeu de mémoire qui est considérable, je veux dire à travers cette visite, qui n'est pas simplement une visite anecdotique, mais qui est beaucoup plus profonde que ça. Fermons cette parenthèse. Donc, le travail avance, mais il y a des obstacles. il y a des obstacles très importants parce que la guerre d'indépendance est un facteur, reste un facteur central de légitimation de l'État et du pouvoir politique en Algérie. C'est incontestable. On ne peut pas nier cette question-là. C'est-à-dire que la légitimation de la nation en tant que telle se fait dans la séquence guerre. Donc ceux qui se sont opposés aux partis qui gagnent cette guerre, c'est-à-dire le FLN, sont considérés comme des traîtres. Je veux dire, bon, la notion de trahison, de traître est extrêmement enseignée pendant des générations depuis 62, ce qui fait que c'est rentré, que ça s'est imprimé, etc. dans la société. J'ai parlé de Messali et des messalistes par conséquent, mais parlons aussi des Harkis et de leurs descendants, c'est-à-dire qui sont eux aussi des Algériens, dont la plupart étaient des paysans, des Aurès ou de Kabylie, etc., et qui avaient, disons, servi aux côtés de l'armée française, dont certains étaient à la LN, d'autres étaient dans les mouvements harkis, soit par conviction, soit par nécessité pour pouvoir survivre, c'était compliqué. Et donc, par conséquent, cette part d'ombre, disons, de l'histoire algérienne, n'est pas encore véritablement pris à bras-le-corps, même s'il y a des historiens algériens qui considèrent que la paysannerie algérienne, pendant la guerre, a été en grande partie du côté de ce qu'on a appelé le mouvement harki. Vous avez des historiens algériens qui écrivent ça aujourd'hui. Par exemple, dans l'ouvrage que j'ai sorti avec Mohamed Harbi aux éditions Robert Laffont en 2004, il y a tout un article qui est consacré à cette question-là, hein, c'est-à-dire sur comment, disons, l'ALN, enfin le côté FLN, a combattu, disons, pour faire en sorte de reprendre pied à l'intérieur de la paysannerie qui basculait politiquement du côté des harkis. Il y avait toute une bataille interne, disons, à la paysannerie algérienne qui a été très, très importante. Et cette question-là, naturellement, est encore une question en friche. C'est une question en suspens encore en Algérie. Mais il y a toute une série de chercheurs, toute une série d'écrivains qui n'hésitent pas à bousculer les tabous et à écrire sur des tas de questions. Il y en a plein d'autres, hein, je pourrais en citer je ne sais pas combien. Donc la recherche, quand même, elle a progressé parce qu'il y a des mouvements citoyens. Vous savez, ce qui était extraordinaire en Algérie en 2019, dans le mouvement du Hirak, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, la jeunesse algérienne qui est descendue dans la rue, ça, quand je dis ça, ça étonne beaucoup de gens, mais vous aviez des gens qui brandissaient des portraits de Larbi Ben Midi ou de Aban Ramdan en disant pourquoi ils ont été tués, qui les a tués. Et on veut se réapproprier notre histoire. C'était dans la rue. Les gens manifestaient avec des pancartes qui disaient, par exemple, « L'indépendance confisquée ». C'est le titre du livre de Ferhat Abbas qui a été publié en 1984. Donc ça ne veut pas dire que les jeunes d'aujourd'hui en Algérie se désintéressent de leur histoire. Mais ce qu'ils veulent, c'est une vraie histoire, se réapproprier leur histoire. Mais ils en ont marre, par contre, ça c'est vrai, d'une histoire légendaire. Ça c'est vrai. Cette histoire légendaire, c'est fini. Mais ils veulent une histoire, disons, qui corresponde à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ont entendu par la transmission familiale, qui était très importante. Parce que pour suppléer au discours officiel déficient, eh bien, il y avait bien sûr la transmission par les familles, par la mémoire familiale, qui venait se heurter, disons, à l'histoire officielle telle qu'elle était enseignée, transmise, etc. Donc voilà, on a ce mouvement en Algérie qui est un mouvement réel, hein, qui n'est pas négligeable, hein, qu'il faut suivre de près, parce que c'est pas, vous savez, l'Algérie, c'est pas une espèce de société homogène où tout le monde se tait, il se passe rien, c'est pas vrai. Vous avez des gens qui écrivent, qui travaillent, qui publient, qui se font arrêter, qui sont libérés, qui combattent, donc c'est aussi ça la société algérienne.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Stora, pour votre intervention ce soir. Merci pour votre venue. Et puis, pour le festival dès demain, c'est ça ?
Déjà, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez acquérir les ouvrages de Monsieur Benjamin Stora et vous les faire dédicacer en fond de salle. Et puis, en espérant vous voir nombreux demain, après-demain, après-demain, vous avez le petit programme. Et puis, on serait très heureux de vous accueillir. On sera à la salle Tchéfer. Donc, l'entrée, c'est rue Pierre Fourier. Voilà. Merci beaucoup.